France Culture.
Vazak, bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un attentat contre Israël hier soir à Washington. Un homme a tué un couple près du musée juif de la capitale américaine pour venger les morts de Gaza. Nous serons sur place dans un instant. Dans la bande de Gaza où l'aide humanitaire a repris après 2 mois et demi de blocus israélien, les distributions restent largement insuffisantes face à l'ampleur des besoins. Les explications à suivre d'Étienne Monin. Donald Trump organise un gala ce soir, une petite fête réservée aux plus gros acheteurs de sa crypto-monnaie, le Trump Coin. La crypto-monnaie, un sujet qui divise profondément les républicains et les démocrates aux États-Unis. Nous verrons cela avec Valérie Cantier. À la fin de ce journal, nous irons à Cannes rejoindre Antoine Guillot, à 2 jours maintenant de la fin du festival. Antoine a vu des histoires de famille sur grand écran, avec notamment un film iranien qui suscite la polémique. Je l'ai fait pour Gaza, les mots d'Elias Rodriguez lors de son arrestation. Cet Américain de 30 ans, originaire de Chicago, a tué un couple hier soir près du musée juif de Washington. Yaron Lichinsky et Sarah Lynn Milgrim travaillaient à l'ambassade d'Israël, non loin du musée. Ils ont été criblés de balles, au moins une dizaine de coups de feu. Elias Rodriguez a encore crié « Free Palestine », « Palestine libre » alors que les policiers l'emmenaient. Ce soir à Washington, de nombreuses personnes viennent se recueillir sur les lieux du crime. C'est un reportage de Sébastien Paour.
Kira Elvi travaille pour le département du logement de la ville de Washington. Elle a déposé ses 3 filles en classe ce matin, pas loin d'ici, et elle est venue s'arrêter devant les rues balises jaunes de la police. Elle cherche ses mots en français en fixant du regard l'entrée du musée à quelques mètres de nous.
J'avais peur avant, mais maintenant j'ai le cœur qui bat fort et j'ai vraiment... peur, c'est pas une peur intellectuelle, c'est une vraie peur pour ma vie et pour la vie de mes enfants. Parce que je pourrais très bien y être hier soir, parce que j'y vais souvent. Là, j'ai peur. Là, c'est ici, c'est chez moi, à côté du FBI et au centre de Washington. C'est où j'habite avec mes enfants. Oui, j'ai peur.
Kira explique que si elle n'était pas à l'événement hier soir au musée, c'est parce que ses filles sont en examen en ce moment et qu'elles restent avec elle le soir pour réviser. Les policiers étaient encore en train tout à l'heure de faire des prélèvements au sol devant le bâtiment, dont les accès sont évidemment bouclés sur tout le bloc autour par les voitures de police et du FBI.
Sébastien Paour, correspondant aux États-Unis. Cet attentat a suscité des condamnations unanimes aux États-Unis et en Europe, mais le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a accusé des pays européens d'incitation à la haine. Il leur reproche de condamner sans réserve l'offensive israélienne à Gaza. Accusation rejetée ce soir par la France qui dénonce, je cite, les propos parfaitement outranciers et parfaitement injustifiés de Gideon Saar. À Gaza, justement, l'aide humanitaire est de retour après 11 semaines de blocus, reprise très partielle en raison des contraintes imposées par l'armée israélienne. Les premières distributions de la population à la population palestinienne ont débuté hier soir. Alors Étienne Monin, que sait-on précisément de la nature de cette aide humanitaire ?
Voici le son tiré d'une vidéo qui montre l'entrée des premiers camions humanitaires de nuit dans Gaza hier soir. Les chauffeurs roulent assez vite pour éviter les coupeurs de route. Les habitants saluent le convoi dans la lumière des phares. Ça ne permettra pas de répondre véritablement aux besoins. Mais c'est l'image de la fin d'un blocus total sur l'aide alimentaire. Hier, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge ont déchargé 68 camions. Le Programme alimentaire mondial avait 48 véhicules chargés de farine, de levure et de produits nutritionnels. Ils sont arrivés au centre de l'enclave, à Deir el-Balah et Nousserat. Ils ont livré directement les boulangeries, mais ça n'est qu'une première pierre, dit le responsable du programme alimentaire mondial pour la Palestine, Antoine Renard.
À date d'aujourd'hui, le plus important, c'est que les cuisines et le pain peuvent être remis en route, mais notre demande principale, c'est de pouvoir distribuer à échelle directement aux populations. Ça permettrait de calmer les prix et également de calmer l'anxiété que certaines populations ont vis-à-vis du fait que nous n'avons pas encore d'assurance sur combien de jours nous pourrons continuer à délivrer cette assistance.
Pour trouver une route plutôt sûre, l'ONU a dû longuement négocier avec les Israéliens. Le gros sac de farine dans Gaza vaut plus de 400 euros. Hier, 6 camions ont été pillés sur la route par des habitants affamés Les humanitaires n'ont pas de visibilité sur la suite des opérations.
Étienne Monin de la rédaction internationale de Radio France. Et pendant ce temps-là, Donald Trump organise un gala ce soir. 220 personnes invitées dans un country club très chic qui lui appartient dans la banlieue de Washington. Les heureux élus sont les plus gros acheteurs de Trump Coin. Le Trump Coin, c'est la crypto-monnaie lancée par le président américain juste avant son investiture. Les 25 plus gros investisseurs auront même droit à un entretien privé avec Trump et à une visite tout aussi privée de la Maison Blanche. L'opposition démocrate dénonce la corruption du président américain car ce gala pousse à l'achat de Trump Coins pour en faire grimper la valeur. Environ 15 dollars aujourd'hui. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
Sur les crypto-monnaies, Valérie, les démocrates sont très critiques.
Oui, alors si vous allez sur le site web dédié au dîner de ce soir, Stanislas, eh bien, vous verrez une page vantant les mérites de, je cite, « Trump, le président de la crypto ». On en prend plein les yeux sur ce site. Le Trump Coin, c'est ce que l'on appelle une monnaie meme, c'est-à-dire une monnaie virtuelle extrêmement volatile, basée sur l'image d'une personne. Et c'est de la pure spéculation, elle ne permet absolument pas ni d'acheter quoi que ce soit, ni d'investir. Les entreprises de Trump détiennent 80% des Trump Coins, plus de 300 millions de dollars de revenus générés pour l'instant. Mais 700 000 petits portefeuilles de détenteurs de Trump Coin sont, eux, dans le rouge. Les démocrates voient dans cette affaire de Trump Coin un conflit d'intérêts majeur et un risque pour la sécurité des États-Unis parce que ce gala permet à des étrangers d'acheter finalement l'accès au président américain, et ça, c'est interdit par la Constitution, et des gouvernements étrangers pourraient acheter des Trump Coins, et ça aussi, c'est interdit. Selon plusieurs médias américains, les plus gros détenteurs de Trump Coin aujourd'hui sont basés à l'étranger ou passent par des sociétés d'échange offshore. Le premier d'entre eux est Justin Sun, entrepreneur chinois de 34 ans, poursuivi pour fraude aux États-Unis. C'est lui qui a acheté, rappelez-vous, en novembre dernier, une vraie banane, œuvre artistique à plus de 6 millions de dollars. Pour un sénateur démocrate, le Trump Coin est l'incarnation même de la corruption. Pour un autre, la famille Trump utilise les crypto-monnaies pour, je cite, « échapper à tout contrôle, masquer des malversations et faire du profit sur le dos des Américains ».
Valérie Cantier, merci. Les démocrates qui organisent un rassemblement de protestation ce soir devant le gala de Donald Trump. Un anniversaire hautement symbolique aujourd'hui en Irlande, alors que dans certains pays d'Europe comme la Hongrie, les droits des LGBT sont remis en cause. Il y a 10 ans, le 22 mai 2015, les Irlandais adoptaient par référendum le mariage pour tous, vote sans appel, 62% qui faisait de l'Irlande le premier pays au monde à choisir la voie référendaire pour légaliser le mariage homosexuel. À l'époque, un seul comté irlandais avait voté contre à 51%, celui de Roscommon, dans le centre du pays, une région rurale et très catholique où s'est rendue Clémence Pénard.
Et c'est assez pour que Roscommon hérite du triste surnom de comté homophobe d'Irlande. Ainsi, pour Will, agriculteur, la victoire nationale fut douce amère.
Nous avons vu toute l'Irlande en vert, à l'exception d'une tache rouge pour Roscommon. Ce fut un moment difficile. Les gens ont commencé à critiquer Roscommon, en partie sur le ton de la plaisanterie, mais cela a clairement braqué les projecteurs sur la région, et personne n'aime être perçu comme en retard sur son époque.
Ce résultat négatif dans le comté aurait donc paradoxalement, éveiller les consciences. Malgré tout, 10 ans plus tard, les défis subsistent en Irlande, notamment en ce qui concerne les droits parentaux pour les couples de même sexe, comme nous l'explique Mive, qui avec sa femme a eu 3 enfants.
On pensait que l'égalité du mariage placerait notre union sur un pied d'égalité avec celle de nos amis et des autres couples du pays. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Même en tant que couple marié, l'une de nous n'est pas automatiquement reconnue comme parent de nos enfants. Nous devons encore passer par des démarches administratives pour obtenir la garde ou l'adoption. L'objectif, c'est de faire évoluer la loi pour que tous nos enfants aient légalement leurs deux parents sans distinction.
Un combat majeur pour les familles LGBT du pays, qui explique en partie pourquoi l'Irlande ne se classe qu'à la 15e place en Europe en matière de droits des personnes LGBTQ+, et ce, 10 ans après le référendum sur le mariage pour tous.
Voilà pour ce reportage de Clémence Pénard, correspondant indépendante en Irlande. Au Danemark, le Parlement a largement adopté aujourd'hui une loi qui relève l'âge de la retraite à 70 ans à partir de 2040, contre 67 ans actuellement. 81 députés ont voté pour et 21 contre. Au Danemark, depuis la réforme de 2006, l'âge légal de départ est indexé sur l'espérance de vie. Il est révisé tous les 5 ans. En 2030, cet âge de départ passera à 68 ans et en 2035, il sera de 69 ans. La filière nucléaire française se porte bien, c'est le message délivré ce matin au Sénat par le patron de l'ASNR, la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Pierre-Marie Abadi répondait aux questions des élus de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il s'est voulu rassurant sur la mise en route laborieuse de l'EPR de Flamanville qui devrait fonctionner à plein régime dès cet été. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Pierre-Marie Abadi a aussi défendu l'ASNR, qui a remplacé le 1er janvier deux entités, l'ASN, le gendarme du nucléaire, et l'IRSN, en charge de l'expertise technique de la filière. Une fusion, Véronique, contestée par les syndicats et des élus.
Oui, et 5 mois après cette fusion des deux entités nucléaires, fusion voulue, on se souvient, par l'Élysée, sans aucune concertation, son président fait un premier bilan aussi là plutôt positif. Pierre-Marie Abadi évoque un dialogue social dense, un climat apaisé.
L'autorité de sûreté, elle se met en place en nourrissant un dialogue social avec les organisations représentatives qui est dense. Nous avons engagé une réflexion sur les enjeux, les grandes orientations qui seront celles de l'autorité de sûreté dans les prochaines années. Je pense que ça a beaucoup contribué à apaiser, à montrer que l'autorité de sûreté s'intéressait à tous les sujets, la recherche, l'expertise, la régulation et le contrôle, et à embarquer l'ensemble des personnels. Et c'est ce que nous continuerons à faire dans les prochains mois.
Quelques démissions ont eu lieu, vous avez dit qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y a eu quelques vagues de départ.
Au début de l'année, nous avions 12 vacances sur 2100 personnels, donc c'est totalement marginal. Et nous avons des taux de départ qui sont extrêmement bas en ce moment. Globalement, cela traduit l'attractivité retrouvée par la visibilité que maintenant on peut donner sur l'évolution de l'autorité de sûreté dans les prochaines années.
Alors les syndicats qui voyaient avec cette fusion une déstabilisation du système de gouvernance de la sûreté nucléaire en pleine relance de la filière évoquent un problème de financement, une perte de sens aussi pour les salariés. Écoutez, Névenal Latil-Kerek, c'est la déléguée CGT, et François Geffroy de la CFDT.
On est parti finalement avec des postes en moins en début d'année. Et quand il s'est agi d'aller demander au gouvernement ces postes, on a eu une fin de non-recevoir alors que le gouvernement s'était engagé à maintenir les moyens. Donc il y a une contradiction à ce qui a été dit dans l'hémicycle il y a un an et finalement ce qui est réellement fait pour maintenir les moyens de l'autorité, voire les renforcer.
Ce qu'on sent auprès des collègues, c'est une grande morosité du personnel et une forme d'attentisme. Enfin voilà, les gens ne savent pas vers où on va, ça manque de cap, grande morosité, et pour un certain nombre, le ressort est cassé, c'est-à-dire, nous, notre mission, c'est la sûreté et la radioprotection du public. Et donc là, il faut qu'on sache où on veut aller. Quel service du public? C'est ça la question fondamentale, et là-dessus, on n'a pas de réponse.
La SNR compte au total aujourd'hui 2100 salariés.
Explication signée Véronique Robérotte. Elle était très attendue dans de nombreux secteurs professionnels. Le journal officiel a publié aujourd'hui la liste actualisée des métiers en tension permettant de régulariser des travailleurs étrangers clandestins. Il s'agit là du volet social de la dernière loi immigration votée en janvier 2024. Région par région, cette liste énumère 80 métiers confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Franck Trouet, délégué général du groupement des hôtelleries et restaurations, salue un premier pas, mais qui reste insuffisant à ses yeux.
Dans notre secteur d'activité, il y a des emplois qui sont pourvus avec des salariés qui présentent des titres de travail qui ne sont pas les leurs. On le sait, et force est de constater que le souhait de chaque employeur, c'est de pouvoir les garder en leur disant « bon, t'as triché, mais t'as fait le boulot ». Et là, on va pouvoir vraiment leur dire « je vais te garder, je vais te régulariser ». C'est important parce que ça veut dire que ces salariés qui vont être régularisés dans les emplois qui sont les leurs aujourd'hui vont ensuite faire valoir leur expérience auprès d'autres chefs d'entreprise et ils vont libérer les emplois qui étaient les leurs avec moins de formation nécessaire. L'ascenseur social, il était bloqué pour ces personnes. Là, il va fonctionner de nouveau et on ne peut que s'en réjouir. Il y a une satisfaction évidente parce que enfin, on a des listes qui reconnaissent la pénurie d'emplois dans notre secteur. Après, il y a des trous dans la raquette, c'est clair. Quand vous voyez que les deux postes les plus recherchés en France, les métiers de serveur, les commis de cuisine, ne figurent pas sur la liste parisienne qui est un des lieux les plus importants en France pour l'activité des hôteliers, des cafetiers et des restaurateurs, on sent qu'il y a eu des freins évidents.
Voilà Franck Trouet du groupement des hôtelleries et restaurations, il répondait à Camille Magnard. L'actualité sociale ce soir, c'est aussi cette mobilisation des acteurs du spectacle vivant. À l'appel de leur intersyndicale, ils sont appelés à une marche festive en ce moment, place de la Bastille à Paris. Rassemblement pour dénoncer les coupes budgétaires, alors que la ministre de la Culture, Rachida Dati, affirme que son budget est stable. À l'approche des festivals de l'été, ces coupes budgétaires du ministère, mais aussi des collectivités territoriales ont déjà des conséquences, c'est ce qu'affirme en tout cas l'intersyndicale. Emmanuel Gourvitch est la présidente du SINAVI, le syndicat national des arts vivants, qui représente plus de 600 compagnies indépendantes et lieux intermédiaires.
On voit bien des baisses de programmation, on voit bien des baisses de production, on voit bien des baisses de coproduction. On voit également des baisses de toutes les lignes qui ont à voir avec l'éducation artistique et culturelle, mais toute la ligne 361 qui notamment finance l'éducation artistique et culturelle a été amputée de 15%. Et c'est la ligne justement qui permet d'aller au-devant des publics les plus éloignés de l'offre culturelle. Donc c'est totalement contre-productif. Et par ailleurs, il y a d'autres baisses de toute façon qui se font sentir dès aujourd'hui. Ce sont toutes les baisses des collectivités territoriales qui parfois ont été quand même féroces et brutales, et qui ont touché particulièrement les compagnies et les acteurs culturels, les plus petits acteurs culturels, mais surtout les équipes artistiques que mon syndicat représente. À l'intérieur de l'écosystème du spectacle vivant, on sait pertinemment que les structures les plus fragiles économiquement et celles les plus flexibles aussi, que ce qui sont les équipes artistiques, sont touchées en premier. Elles sont la variable d'ajustement.
Emmanuel Gourvitch, présidente du syndicat national des arts vivants, elle répondait à Maë Alliot. Partons à Cannes à présent, à deux jours maintenant du palmarès de la 78e édition du festival. Dans notre rendez-vous quotidien, on va s'intéresser ce soir à trois films qui racontent des histoires de famille. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Stanislas.
Producteur de plan large sur France Culture, vous avez vu Valeurs sentimentales du Norvégien Joachim Trier, très applaudi. Mais on commence, Antoine, avec un film moins convaincant, The History of Sound, littéralement l'histoire du son.
Où, pour le coup, la famille est laissée hors champ, puisqu'elle raconte les amours clandestines de deux jeunes ethnomusicologues, comme on ne les appelle pas encore, dans l'Amérique des années 1910 finissantes, acharnés à enregistrer les folk songs, les chansons traditionnelles, dans les recoins les plus reculés. On se demande bien, à vrai dire, mis à part l'alléchante présence sur les marches du palais des très glamour Paul Mescal et Josh O'Connor, ce que ce film vient faire dans une compétition déjà très encombrée, tant il exhale les remugles faisandés de l'académisme littéraire tel qu'on n'ose plus en faire depuis 30 ans. Passons. Valeurs sentimentales, le nouveau film du Norvégien Joachim Trier, pourrait avoir lui aussi l'apparence des compétitions cannoises passées, puisqu'il flotte très manifestement le fantôme d'un Ingmar Bergman qui en était le grand abonné à l'époque, avec cette histoire de famille déchirée où, suite au décès de la mère, le père, vieux cinéaste en retour de grâce, essaye de renouer avec ses deux filles, surtout l'aînée, comédienne de théâtre renommée qu'il verrait bien jouer dans son nouveau film inspiré du suicide de sa propre mère. Mais là où on peut s'attendre au terrible spectacle déjà beaucoup vu des petits massacres en famille, c'est au contraire la possibilité d'un dialogue qu'explore Joachim Trier et d'un dépassement de tous les traumatismes, aussi bien historiques que familiaux, ne serait-ce que par le cinéma, et bien c'est déjà ça.
Troisième film, Antoine, Woman and Child, un drame familial du réalisateur iranien Saïd Roustaï, un film, Antoine, qui suscite la polémique en Iran.
En effet, Stanislas, c'est ce dès l'annonce de sa sélection en compétition cannoise début mai. Une lettre ouverte signée par des réalisateurs indépendants iraniens, clandestins ou en exil, dénonçait, avant même d'avoir vu le film en question, la compromission du cinéaste avec le régime, puisqu'il en avait accepté les codes de censure en faisant notamment porter le hijab à ses personnages féminins en extérieur comme en intérieur, ce qui ne correspond plus, on le sait, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, dans les grandes villes en tout cas, à la réalité depuis le mouvement Femme Vie Liberté. C'était oublié que l'auteur de Leïla et ses frères s'étaient vus, à cause de ce film d'ailleurs interdit en Iran, condamnés à 6 mois de prison et 5 ans d'interdiction de tournage, peine depuis suspendue, et que ce Woman and Child va encore plus loin dans son attaque frontale du mortifère patriarcat iranien, où ce qu'il en reste, tant au-delà du tragique destin très mélodramatique de son héroïne, c'est bien la fabrique d'une nouvelle femme que montre Saïd Roustaï, qui ne serait plus ni fille, ni épouse, ni mère, mais elle-même. Alors si ce genre de film qui dépeint l'Iran comme une vaste prison corrompue jusqu'à l'os, c'est du cinéma officiel, on en redemande.
Merci Antoine Guillot. En direct de Cannes, on vous retrouve demain dans notre journal de 18h pour les dernières nouvelles du festival. Le temps demain sera assez calme dans l'ensemble, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, des brouillards matinaux de la Normandie à la Bourgogne, avant le retour du soleil. Ailleurs sur la moitié nord, quelques gouttes possibles. Le soleil devrait l'emporter du côté de la Méditerranée. Les températures minimales iront de 4 à 13 degrés. L'après-midi, il fera de 14 à 25 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Marie-Claire Oumabadi.